Tout de suite, Estivalitude avec Caroline Fauchon et Metin Arditi. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans Estivalitude, l'émission qui songe à se présenter aux prochaines élections municipales. On n'a pas encore choisi la ville avec un slogan simple, nous la voulons, nous l'aurons, l'Estivalitude. Donc Estivalitude, la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci,
c'est ouvert à tout le monde.
Tout le monde.
Tout le monde.
Ouais, tout le monde y sera.
Formidable.
Caroline Fauchon, c'est un plaisir pour moi de recevoir une jeune romancière qui sort son premier livre, Sans eux, tout un programme dans lequel vous envisagez carrément l'extinction du sexe masculin. Bonjour Caroline Fauchon.
Bonjour.
Metin Arditi, vous avez derrière vous une œuvre importante et vous nous offrez aujourd'hui un dictionnaire amoureux de l'esprit français. Alors un Suisse qui aime la France, c'est un scoop. Bonjour Metin Arditi.
Bonjour Christophe Bourseiller.
Et voilà, d'un côté un amoureux du style et de l'esprit français, de l'autre une romancière brillante qui envisage le pire. Magnéto Juliette.
Estivalitude.
Mais qu'est-ce que ça veut dire d'abord ?
Ça veut rien dire.
Christophe Bourseiller sur France Inter.
Caroline Fauchon, vous connaissiez le travail de Metin Arditi ?
Non, mais je me suis renseignée, j'ai regardé cette littérature sur l'exil parce que ça m'intéresse.
Ouais, ouais.
Voilà. Et ça m'a aussi renvoyée aussi à des auteurs que j'aime et que je lis beaucoup.
Comme qui, par exemple ?
Eh bien, par exemple, toute Aaron Appenzfeld, etc. Ah ouais. Toutes ces littératures de l'exil aussi.
C'est vrai que voilà. C'est une part importante de l'œuvre romanesque de Metin Arditi. Metin Arditi, vous aviez entendu parler du livre. Parce que c'est son premier livre, donc Caroline Fauchon, son œuvre pour l'instant se réduit à un livre. Mais quel livre ? Donc le livre de Caroline Fauchon qui évoque le crépuscule des mâles.
Écoutez, non, je n'en avais pas entendu parler. C'est une perspective assez effrayante. Mais enfin voilà, on est face à elle.
Alors Metin Arditi, vous connaissez la blague suisse anti-française. Qu'est-ce qui sépare l'homme du singe ? Le lac Léman. Alors c'est vrai que les Français n'ont pas tellement la côte en Suisse.
Oh non, non, c'est pas vrai du tout. D'abord, j'ai jamais entendu cette blague.
Ah bah écoutez, moi on me l'a répété chaque fois que je suis allé en Suisse.
C'est vrai ?
Oui.
C'est bizarre. Ça.
Bah je ne sais pas.
Ouais.
Ouais.
Non, non, je trouve que en général, les Suisses aiment beaucoup la France. Et ils admirent la France et en particulier à Genève où on se targue quand même d'être les plus français de tous les Suisses romands.
Ah bah c'est vrai que dans votre dictionnaire amoureux de l'esprit français, vous clamez votre amour de la France. Vous avez d'ailleurs été fait commandeur des Arts et Lettres en octobre 2018. Donc vous êtes presque un citoyen d'honneur de la France. C'est quoi l'esprit français en deux mots ?
C'est assez difficile à résumer en deux mots, mais peut-être en trois.
Oui.
Je crois que le fondement de l'esprit français, c'est le désir de plaire. Moi, je suis parti de cette réplique de Dorante dans la critique de l'école des femmes. Je voudrais bien savoir si la grande règle de toutes les règles n'est pas de plaire. Et là, il se passe deux choses. La première est magnifique, c'est-à-dire que ça amène à tout ce qu'il y a d'extraordinaire en France. Le goût du beau, le sens de l'esthétique, l'art de l'apparat.
Dont on va longuement parler aujourd'hui,
dont on va parler, on espère tout à l'heure. Et aussi une forme d'obsession de la justice, mais également le goût des barricades. Et ça c'est la partie magnifique. Lorsqu'on a envie de plaire, évidemment, on se met sur son 31, on fait attention, on se met pas les doigts dans le nez. Tout ça, c'est très bien. Et puis, il y a l'autre aspect qui est la nécessité de plaire. Dans une société, quand même, il faut le dire, à relent monarchique, la nécessité de plaire amène à la paralysie de la liberté et amène à l'étiolage, on se lyophilise. J'ai dans mon dictionnaire une entrée qui est prise d'une phrase de Saint-Simon, « jusque du moindre de ses regards », lorsqu'il décrit l'arrivée du roi dans les salons de Versailles. Et les courtisans sont absolument tétanisés et se demandent « que va-t-il se passer ? Va-t-il me reconnaître ou pas ? Me saluer, me sourire ?» me reconnaître, mais faire semblant de ne pas me voir.
Ah ben, c'est le problème de plaire au roi, évidemment, c'est toujours délicat.
Et lorsque vous lisez l'interview qu'a donnée, il y a pratiquement jour pour jour, une année au Monde, Alexandre Benalla, oui, qui décrit le fonctionnement de l'Élysée. Et dans la même édition du Monde, il y a, me semble-t-il, une interview de François Bayrou, qui sait quand même de quoi il parle.
Oh ben alors là, vous me citiez Benalla.
Alors, Benalla dit exactement les mêmes mots, utilise les mêmes mots que Saint-Simon.
Ben écoutez, ça prouve que Benalla est un homme de culture. Caroline Fauchon, qu'est-ce que vous préférez dans l'esprit français ?
L'esprit de la conversation, l'art de la conversation, ah oui, oui, de l'échange, et comment dans la conversation se construisent les sous-entendus et ce qui peut mener aussi à la séduction.
La séduction par les sous-entendus.
Voilà.
En fait, ce qu'on ne dit pas, mais ce qu'on suggère par un regard, par oui, un geste, par un petit oui, quelque chose. Et ce qui vous révulse chez les Français et dans la France en général?
Ah, j'ai pas un tempérament à être révulsée par beaucoup de choses, donc j'aurais du mal à dire ce qui me révulse chez les Français, d'autant plus que j'en suis une, alors bon, c'est pas évident comme question.
Il y a des gens qui se haïssent.
Oui, il y a des gens qui se haïssent, mais moi je ne hais pas grand monde.
Non, vous alors, Bettine Arditi, dans votre livre, vous citez évidemment certains aspects de la France qui nous, Français, nous font sourire. Vous parlez par exemple les grèves, spécialité française.
Oui.
C'est pourquoi? La France, c'est vrai, il paraît le champion du monde du nombre de jours de grève, selon oui, l'OCDE. Ah, je cite mes sources.
Il faut partir d'un constat, c'est que lorsqu'il y a, par exemple, il y a une année, il y avait une très longue grève perlée de la SNCF,
c'est vrai,
vous en souvenez,
oui, oui, bien sûr,
combinée avec une grève d'Air France, des pilotes qui souhaitaient des augmentations de salaire alors que leur salaire était, en tout cas à ce moment-là, parmi les plus élevés des salaires européens. Et il y avait une paralysie dans le pays. Moi, j'ai passé plusieurs week-ends à Paris étant incapable de retourner à Genève. Et à ce moment-là, au plus fort des grèves, il y avait un peu moins de 50% des sondés qui soutenaient le mouvement. Le mouvement des grèves était pour défendre le statut des cheminots qui, on le sait, bientôt n'existeront quasiment plus vu que les trains seront conduits automatiquement. Et je crois qu'il y a dans la grève une forme de noblesse, une exigence de justice.
Alors, il y a quelqu'un d'autre que vous citez, ça m'a beaucoup surpris, comme représentant de l'esprit français, c'est Alain Finkielkraut. Oui. En quoi est-il l'incarnation de la France?
Alors, je ne crois pas dire qu'il est l'incarnation de la France. En revanche, je trouve que sa démarche consistant à défendre bec et ongles la langue française et à voir...
Ah, c'est ça qui vous plaît?
Ah oui. Avoir dans la langue, et oui, puisque lui, il se positionne, n'est-ce pas, en tant que fils d'immigré, moi j'ai appris le français en Turquie, et j'ai, à l'égard de la langue française, un amour, un respect que je partage avec Alain Finkielkraut.
Il y a un homme qui évoque, selon vous, qui synthétise l'esprit français, je voudrais bien qu'on l'écoute un tout petit peu, c'est Pierre Berger.
Saint-Laurent, il n'a jamais revendiqué l'élégance d'être habillé par lui, sûrement pas. Il a toujours revendiqué pour les femmes la liberté. Une liberté de geste, une liberté de mouvement. Pour lui, c'est ça l'élégance. La vraie élégance, c'est celle-là. C'est pas d'être bien habillé. On sait très bien que ça ne veut rien dire, ça. Mais c'est d'avoir des gestes, c'est d'avoir une tenue, c'est de savoir n'importe quoi, téléphoner, conduire, porter des lunettes, se coiffer. Pour lui, c'est ça.
Pierre Berger sur France Inter en 2002. Ça aussi, c'est l'esprit français.
Et comment ? Dans une de ses formes les plus brillantes. Parce qu'il y a aussi, chez Pierre Berger, mis à part la très grande intelligence, il y a beaucoup de panache. Et il y a beaucoup de franchise, beaucoup d'intelligence, beaucoup de sincérité. Il va jusqu'au bout. Il ose. C'est magnifique.
But ooh, here we go. were having so much fun. So now, how could we both forget? Telling each other we're the one. We would make love at the drop of a hat. Remember that?
Yeah.
I remember you and me. Close as any two can be. Now we're strangers in the night. Awkward and tight. Oh, baby, do you wanna make it better? Do you wanna stay together? Hey, if you do, then let's please make some new memories. When you take somebody for your own, it can't survive on history. We got a room at home. Go to a place that we don't know so well. It'd be nice, add a little spice. Try some new seduction. Show each other how. Give each other new instructions on what makes us feel good now. I just wanna make you feel good now.
La rencontre électrique de deux générations. D'un côté, le jeune Anderson Paak, 33 ans au compteur. C'est un Californien. De l'autre, Smokey Robinson, légende du rhythm and blues, 79 ans. C'était Make It Better.
Estivalitude sur France Inter.
Alors, on va parler des femmes, parce que c'est quand même un sujet très important qui nous concerne tous. Les femmes et les hommes, ça tombe très bien. Métine Arditi, dans votre dictionnaire de l'esprit français, vous parlez longuement des grandes figures du féminisme. Vous dites qu'il y a un féminisme français. Alors, le féminisme, dans votre livre, c'est partiellement ça.
Je crois qu'il y a une tentation générale des femmes de secouer l'état de dépendance dans lequel elles se trouvent.
Et vous croyez qu'on est en bonne voie ?
Je crois.
Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle.
Je ne me sens pas féministe si on fait de la domination masculine l'explication à tout faire de l'histoire. Là, je renacle.
Je pense que les statistiques que certaines donnent sur le comportement masculin laissent à penser que les hommes sont devenus, d'une certaine façon, un ennemi. Et je pense que c'est gravissime. Voilà.
Actuellement, la domination, c'est une domination masculine. Ce sont les hommes qui sont plus payés, qui font moins de tâches ménagères que les femmes, etc., etc. C'est cela qu'il faut renverser, non pas pour arriver à une domination inverse, mais pour arriver à l'égalité entre les femmes et les hommes.
Et vous croyez qu'on est en bonne voie ?
Je crois.
Est-ce qu'on est en bonne voie? On a écouté successivement Françoise Giroud, Simone de Beauvoir, Mona Ozouf, Elisabeth Badinter et Marlène Schiappa. Alors ça, ce sont certaines de ces... Alors notamment, je pense à Françoise Giroud, Mona Ozouf, sont dans votre livre Métine Arditi comme l'incarnation d'un féminisme français. Alors si je peux vous demander en deux mots, le féminisme français, qu'est-ce qu'il distingue des autres?
Ah, je crois rien du tout.
Rien du tout.
Non, rien. C'est un féminisme aujourd'hui mondial. Il y a une situation de fait si vous me permettez une parenthèse, vous savez que le fondement de tous les régimes fascistes, c'est le mépris. Parce qu'on ne peut pas demander à une population, on peut demander à un homme s'il est pervers, mais à une population de maltraiter ses semblables, sauf si on convainc cette population que ses semblables valent moins que lui. Ce mépris, c'est le fondement du fascisme. L'étymologie du mot mépris est très intéressante. C'est l'estimation de quelque chose en dessous de sa valeur. Mépris, c'est le préfixe mé, mésentente, médisance, mépris. Eh bien, c'est exactement la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui, très largement, les femmes.
Qui se sentent méprisées, vous voulez dire ?
Non, elles ne sont pas payées à hauteur de leur travail, à égalité avec les hommes. D'une manière très générale. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément un féminisme français, il est mondial. Alors, et oui. Là, on peut dire que d'une certaine manière, il y a une dimension fasciste à cette situation. Alors évidemment, on ne peut qu'être très heureux des réactions, des développements, mais on peut aussi se faire des soucis quant aux excès.
Alors, voilà. Caroline Fauchon, vous, votre roman, ce premier roman assez fascinant, Sans eux, démarre par une révolution féministe. Hein, au début, il y a donc des revendications des femmes, la femme récupère finalement sa juste place, pourrait-on dire, dans la société. Mais voilà que progressivement, les hommes, on pourrait dire, s'effacent jusqu'à disparaître. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre livre ? Vous pouvez nous l'expliquer ?
Il y a une sorte de mutation anthropologique, en fait, et qui fait que les hommes vont s'amenuiser, en fait, vont disparaître progressivement de l'espace public, mais aussi, finalement, de tous les
ils
endroits.
Ils sont détrônés, et du coup, ils font une sorte de dépression collective, parce qu'il n'y a pas de virus, il n'y a pas de cataclysme dans votre livre.
Non, il y a une sorte de mutation, en fait, génétique, qui s'est fait à leur insu, peut-être, depuis des millions d'années qui disparaissent. Voilà.
Donc l'homme disparaît progressivement de l'humanité.
Oui.
Concrètement, ça se traduit comment ?
Concrètement, ça se traduit aussi par un rétrécissement physique, aussi par...
Par une impuissance.
Par une impuissance, oui, dans tous les sens du terme, finalement, dans tous les domaines, ouais. On pourrait dire. Et puis ça se traduit aussi par la recherche d'espace, d'espace potentiel finalement à investir, puisquisqu'ils se cachent,
Ils vont au pôle Nord, il y en a qui vont au pôle Sud, le plus loin possible.
Le plus loin possible, ou bien ils vont dans les caves, dans les souterrains, dans les replis du monde, dans les recoins.
Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Vous voulez dire quoi ? C'est quoi le sens de votre livre ?
Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais en fait, ce n'est pas tant... Quand j'ai commencé à écrire, MeToo n'était pas du tout encore à l'honneur dans les médias. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était plutôt comment est-ce qu'on peut changer de société sans violence ? En fait, c'est cette idée d'adaptation au monde. Et alors, il s'est trouvé... que les relations hommes-femmes m'intéressent, sans doute. Donc, ça a été ce point de départ de faire disparaître les hommes. Mais c'était surtout pour parler des femmes et pour parler aussi de notre capacité, finalement, depuis des millions d'années, à nous adapter à ce qui nous arrive. Voilà. Et donc, c'était plutôt ce regard, si vous voulez.
Alors en fait, la femme va se sentir pas trop mal, mais enfin, disons qu'elle est en même temps, elle fait contre mauvaise fortune bon cœur, puisque votre personnage, votre héroïne, elle ouvre chez elle une sorte de musée de l'homme.
Donc tout à fait, parce qu'en fait, ce qui se passe finalement, c'est que les femmes étaient reléguées dans la représentation. C'était des grandes héroïnes littéraires, mais c'était surtout les hommes qui créaient, les hommes qui écrivaient, les hommes qui peignaient. Elles étaient des allégories de la République française. Et là, elles vont passer dans le monde de la création, et les hommes vont être représentés, ne vont être que des images, des fantasmes, comme l'étaient les femmes auparavant. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, parce que j'ai envie de dire que les plus beaux personnages du roman sont peut-être les hommes, finalement. Sont les plus poignants.
Métine Arditi, vous et moi, on est des hommes. Vous pensez qu'on va aller se cacher dans des grottes au pôle Sud ?
Pas du tout. Tout au contraire, parce que enfin viendra le temps où nous serons courtisés. Les rôles seront inversés.
Exactement.
Moi, je trouve ça formidable.
Et puis, on sera de plus en plus rares, parce que si la plupart des hommes disparaissent, ça me nuise.
Voilà.
C'est un peu triste, quand même, comme vision, non? Parce que moi, j'ai lu, j'ai lu tous les articles sur votre livre, disait que votre livre est un chant d'amour pour les hommes. Vous le voyez comme ça, votre livre?
Alors, on peut le voir comme ça, puisque ils ont finalement une certaine profondeur. Ce sont les hommes sont sentimentaux, ils sont lyriques. Je trouve qu'il y a une nouvelle, peut-être, façon de les percevoir, qui peut faire du livre un chant d'amour pour les hommes.
Alors, on a trouvé, avec Juliette Médevielle, on a trouvé un document quand même assez étonnant. C'est une série américaine qui s'appelle Sliders, dans laquelle de jeunes héros glissent d'un univers parallèle à l'autre, et ils arrivent un jour dans un monde sans hommes.
Apparemment, il y a eu un conflit dans l'Est il y a quelques années. Les Irakiens ont lancé dans l'atmosphère un virus qui s'attaque aux chromosomes Y.
Merde. Comment certains mecs ont survécu à tout ça?
L'immunité naturelle, monsieur Brown. Quelle que soit la virulence de l'infection, statistiquement, il y a toujours quelques survivants. Et maintenant, les pays industrialisés sont engagés dans une course à la repopulation.
Quoi? Les mecs sont tous prisonniers. Ils ne sont qu'un rouage. Ce sont des machines à procréer. Le problème, c'est que dans 59 heures, on doit glisser. Il faut faire passer le message à Wade.
Il y a plus important que ça. Nous devons trouver un moyen de sortir de là.
Alors, les hommes deviendront-ils des reproducteurs dans des usines à reproduction? Les rares encore capables de reproduire quelque chose? C'est votre sentiment,
non,
Caroline?
Non, pas du tout, pas du tout.
Métine, comment vous voyez l'avenir de l'homme? Je sais que la femme est l'avenir de l'homme, mais à part ça...
Écoutez, sur un plan, disons, plus actuel et plus réaliste, ce qui se passe est évidemment inévitable. Une situation de grand déséquilibre ne peut pas être réglée sans violence. C'est impossible. Et ce qui se passe aujourd'hui...
Cette révolution des femmes est inévitable.
Oui, et c'est très violent, et ça, c'est regrettable. Je pense, vous êtes un mélomane, vous voyez ce qui s'est passé avec Daniel Legati, ce qui s'est passé avec Charles Dutoit.
Les accusations de harcèlement.
Mais rien n'a été prouvé. Ces gens n'ont pas été condamnés, mais ils ont été exclus, rejetés et je dirais même biffés. J'ai écrit une chronique dans La Croix intitulée « Charles Dutoit n'existe pas » parce que la radio canadienne a décidé, lorsqu'elle passe un de ses enregistrements avec l'Orchestre symphonique de Montréal, qu'il a vraiment porté, lui, à des sommets, vous le savez,
bien sûr.
On ne mentionne plus son nom. Si les chefs d'orchestre d'un enregistrement ne mentionnent plus son nom, Daniel Legati a été jeté vraiment au chien.
Après avoir été porté...
Oui, et c'est un très grand chef.
Parlons de la musique classique, je dis pour les auditeurs.
Voilà. Et donc, c'est évident que ce genre d'excès est regrettable, mais c'est aussi inévitable.
Des rêves sur le bitume, quelques mots d'amertume. On change de décor. Des fusils et marins, passe boulevard Saint-Germain. J'ai oublié ton corps. Qu'est-ce que sera demain? Le début ou la fin? Ou la fin? Sans haine et sans amour,
passe les jours et les jours. C'est le gris qui s'installe dans ce loft rouillé où nous vivons traînés comme un rêve qui fait mal.
Qu'est-ce que sera demain, le début ou la fin?
Une chanson pour vous, Caroline Fauchon. En 1981, Yves Simon s'interroge sur le futur et en fait une chanson qu'on vient d'entendre, Que sera demain ?
France Inter, Estivalitude, Christophe Bourseiller.
Ma sempre, sempre indietro, contrabassi, you are always late, corpo di un Dio santissimo. È una vergogna! Shame on you!
Voilà, ben sachez-le, Metinarditi, c'était l'un des plus grands chefs d'orchestre du XXe siècle, Arturo Toscanini, qui a dirigé la Scala pendant des décennies. Il était coutumier, il faut dire, de colère mémorable, et je préfère bien sûr ne pas vous traduire ce qu'il dit. Alors j'ai passé ce petit document sur Arturo Toscanini, une des colères folles d'Arturo Toscanini, parce que je n'oublie pas que j'accueille ce matin sur France Inter l'auteur d'un roman, Prince d'orchestre, qui raconte l'histoire de la déchéance d'un chef d'orchestre qui craque complètement en insultant son orchestre et qui du coup, je vous raconte pas la suite, mais il vit le cauchemar d'ailleurs de la déchéance. On parlait tout à l'heure de la déchéance et les harcèlements, et là c'est un exemple de déchéance. Metinarditi, vous êtes un grand mélomane, vous êtes un mécène de la musique, vous avez offert à la ville de Genève une salle, l'auditorium Fondation Arditi, et puis pendant longtemps vous avez présidé aux destinées de l'orchestre de la Suisse romande.
Oui.
Voilà. Et d'ailleurs, je terminerai avec là-dessus, le son qui vous résume. Parce que je vous ai demandé de me dire quel était le son qui vous résume. Et le son qui vous résume, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est, Metinarditi ?
Alors, c'est évidemment un orchestre qui s'accorde avant le concert. C'est un moment que je trouve bouleversant. Évidemment, dans la salle de concert, ça l'est, en particulier lorsque l'on est proche de l'orchestre qui va jouer, ce qui a été mon cas pendant près de 18 ans avec l'orchestre de la Suisse romande. C'est un moment de grande émotion. Mais au-delà, je trouve que c'est magnifique dans ce sens que c'est l'instant du potentiel. N'est-ce pas ? Il y a du brouhaha. Il y a des dissonances et on se prépare et on sait que dans quelques secondes, ce brouhaha va se transformer en quelque chose de merveilleux et de très harmonieux.
C'est le chaos qui précède à la création. Exactement, finalement. Hein, c'est formidable.
C'est
Caroline Fauchon, vous écoutez quoi comme musique ?
J'écoute du rock indépendant.
Ah oui, quoi par exemple ?
Là, actuellement, qu'est-ce que j'écoute ? C'est difficile pour moi là, de le dire. Alors j'écoute de la musique française, voilà, beaucoup Benjamin Biolay, Étienne Dao, etc. Ouais. Et puis récemment, dernièrement, là, je réécoutais tout Radiohead ou bien des choses plus récentes.
Dans votre roman, on entend Everything But The Girl.
Oui, Everything But The Girl, qui est une chanson qui m'a beaucoup accompagnée quand j'étais jeune.
Ouais, ouais.
ouais. Justement, parce que le nom du groupe est quand même assez étonnant.
Tout sauf la fille. Et là, c'est tout sauf le mec, en fait, dans votre
livre.
Ouais,
voilà, il y avait une idée d'une interprétation assez vaste, en fait, de ce nom.
Alors là, je dois dire, c'est une incroyable coïncidence, parce que le son qui résume Metinarditi, c'est donc l'orchestre qui s'accorde. Et le son qui vous résume, écoutez bien, c'est ça, Caroline.
Thank you.
Alors qu'est-ce que c'est, Caroline Fauchon?
Que c'est en fait le brouhaha dans une salle de théâtre juste avant que le spectacle ne commence.
C'est dingue, hein, c'est ouais. Donc le, en quelque sorte le public qui s'accorde avant d'écouter la
voilà,
pièce.
Exactement, c'est ce bruit et ce basculement dans le silence qui peut être à la fois brutal ou pas, puisque désormais il n'y a plus les trois coups, donc parfois justement le silence se fait progressivement et j'aime bien ce moment-là où on bascule aussi dans l'univers d'un auteur, en fait, d'un metteur en scène.
C'est important le théâtre pour vous, Caroline Fauchon?
Ah, c'est très important, puisque j'enseigne le théâtre. Ouais, donc pour moi,
qu'est-ce que vous aimez dans le théâtre? Pourquoi le théâtre?
Ben, ce que j'aime, c'est cette présence collective du public. C'est cette façon aussi, justement, d'accorder les goûts. C'est la façon dont aussi le public se regarde les acteurs. Et puis, c'est parce que c'est aussi un art du temps présent et de l'éphémère. Je trouve ça très beau.
Caroline, je crois que vous avez une question pour Metin Arditi, mais je ne sais pas laquelle. Je vous écoute.
Eh bien, vous avez écrit le dictionnaire amoureux de l'esprit français. Alors, je voulais vous demander si, en tant qu'amoureux de l'esprit français, bien sûr, vous aviez déjà été infidèle à cet esprit français.
Ah, ça, c'est une question assez perverse.
Perverse. Elle est perverse.
Oui.
Vous aussi, d'ailleurs, parce que votre question est perverse aussi. Hein.
Ça me rappelle ce chevalier qui rentrait des croisades et sa femme lui demande « Monseigneur, me fûtes-vous fidèle ?» Et il lui répond « Souvente fois, madame. »
C'est joli. Alors, votre question, Métine, à Caroline, qu'est-ce que c'est?
Aimez-vous Brahms?
Hommage à François Sagan, si je puis me permettre.
Effectivement, je ne suis pas. Alors, soit je réponds au premier degré. Donc, j'adore les. Donc, je ne suis pas mélomane. Je ne connais pas très bien la musique classique. Soit je réponds
au second degré.
Au second degré.
Vous n'aimez pas Brahms en réalité, puisque vous n'écoutez pas de classique.
Je ne sais pas si je n'aime pas.
Oui, puisque peut-être... vous n'écoutez pas, c'est ça.
Parce que je n'écoute pas. Bien sûr. Donc voilà, ma réponse est suspendue.
Tout
parce
à fait.
Que
tout à fait.
L'avenir n'est pas écrit.
Et vous aimez Sagan?
Oui, j'aime beaucoup Françoise Sagan. J'aime beaucoup les écritures féminines, même si quand je lis, je ne distingue pas une autrice d'un auteur. Mais c'est vrai que je cherche depuis quelques années à essayer de distinguer des voix féminines. Et en tout cas, j'aime bien aussi ce mouvement qui consiste aussi à réévaluer le poids des femmes dans la création et notamment dans l'écriture.
Ma question visait autre chose.
D'accord. Qu'est-ce qu'elle visait?
Le film.
Ah.
Parce que le film d'Anatole Litvak... qui est un petit bijou, qui est sur le plan de la narration un peu simplé. Mais il y a de très grands acteurs. La musique est de Georges Auric, mais vous savez très bien qu'elle reprend le troisième mouvement de la troisième symphonie de Brahms. Entre parenthèses, vous avez une chance folle de ne pas connaître Brahms, parce que vous avez la chance de pouvoir le découvrir.
Mais je suis bien d'accord.
Et vous en serez absolument transporté, parce que c'est la musique la plus bienveillante qui soit.
Estivalitude sur France Inter.
J'ai cru que c'était mieux hier, alors j'ai reculé. J'ai cru pouvoir te plaire. Est-ce que je me suis plantée? J'ai repensé à cette nuit, dans tes bras un instant. C'était si long et infini, éphémère pourtant. Et dans mes souvenirs c'était si bien. C'est sûr, j'y repenserai. Silence me fait douter, tu laisses un vide en moi. Je crois que j'ai aimé la violence de tes choix. Tes mains qui englobent mon cou et l'étreinte d'une nuit à genoux. Oh, je sais que je ne devrais pas, je sais que je ne devrais pas. Mais j'en veux encore. encore. Et dans mes souvenirs, c'était si bien. C'est sûr, j'y repenserai demain. Mais dans mes souvenirs, c'était si bien. C'est sûr, j'y repenserai demain. Oh, j'en veux encore. Je veux ton corps. Oh, j'en veux encore. Je te parle de souvenirs comme s'ils n'existaient pas. J'ai besoin de sentir quelque chose en moi. Je te parle de souvenirs et tu sais qu'ils en disent long. Fais-moi revenir, je ne dirai pas non. Oh, j'en veux encore.
Ça, c'est pour vous, Métine Arditi. Bah oui, je sais, je vais vous surprendre, mais c'est pour vous. C'était Vendredi sur Mer, alias Charline Mignot, car elle est citoyenne helvétique. Elle nous offre ici ses fragments d'un discours amoureux. C'était encore une programmation Paris-Genève-Los Angeles de Muriel Pérez.
Vous avez dit.
Ah non.
De quoi? Qu'est-ce que vous avez dit?
Pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt?
Il y a dans l'esprit français, alors ça, il faut le dire, une tentation des barricades. C'est comme ça. Ça fait partie du goût de la théâtralité.
Les barricades, c'est théâtral, Métine Arditi.
C'est un spectacle. Effectivement, on ne peut pas plaire, n'est-ce pas, si on part de l'idée que l'élément matriciel de l'esprit français, c'est le goût de plaire, on ne peut pas plaire en s'enfermant à double tour chez soi. On est donc forcément dans une forme de théâtralité. Du reste, il y a dans la langue française une expression que je ne trouve pas ailleurs et qui est « être sur le devant de la scène ».
C'est vrai.
Et ça, c'est très typique de l'esprit français. Ça en fait tout son charme. Ça en fait aussi certaines de ses faiblesses.
Un panache, il y a un panache des Français, c'est ça que vous voulez dire?
Alors c'est ça, effectivement, le panache, c'est quelque chose de très beau, d'assez coûteux et qui n'a strictement aucune utilité fonctionnelle.
Bah, quand même, par exemple, les Français qui descendent dans la rue obtiennent parfois la satisfaction de leurs revendications. À l'exemple, par exemple, des Gilets jaunes. Vous les comprenez, les Gilets jaunes?
Écoutez, je les comprends tout à fait. Tout à fait. Mais je vois si vous voulez, l'écriture de ce dictionnaire amoureux de l'esprit français m'a fait comprendre aussi une attitude épouvantable en France à l'égard de l'apprentissage, de tout ce qui est besogneux. Il y a un mépris du besogneux dans l'esprit français. Il faut le dire parce que je crois que les problèmes principaux du pays qui s'extériorisent par les manifestations souvent excessives des Gilets jaunes, mais enfin c'est une réalité, viennent du fait que tout ce qui relève du petit travail indispensable, en italien, bisogna veut dire il faut. Et ce mépris du besogneux qui s'incarne dans le mépris de l'apprentissage, j'en donne des exemples dans mon dictionnaire, représente en France un coût faramineux.
Et vous, Caroline, vous êtes une femme engagée?
Pas de nature, en fait. J'ai plutôt, quand je pense quelque chose, je me dis toujours qu'on peut penser le contraire. Donc,
L'injustice, vous la voyez ou vous la voyez
oui,
pas?
Oui. Ah, bien sûr, l'injustice, ouais. De ce point de vue-là, bien sûr. Oui.
Pourquoi, à votre avis, on dit que les Français haïssent plus les riches que les autres Européens? Vous êtes d'accord avec cette vision?
Oui, effectivement, il y a un mépris, un mépris peut-être de l'argent en ses mauvais aspects, peut-être, effectivement, en France, parce que ce qu'on préfère, c'est quand même les artistes, et puis finalement la bohème aussi, qui est très très valorisée et qui n'est pas valorisée dans tous les pays.
Vous êtes d'accord, Metin Arditi, finalement les Français préfèrent le panache de l'artiste à l'efficacité du businessman?
Oui, et effectivement, c'est un des beaux côtés de l'esprit français, c'est ce poids qui est donné à tout ce qui relève effectivement des arts, de la littérature, de l'intellect, et qui évidemment n'est pas compatible avec tout simplement la mesure du succès de quelqu'un à combien il gagne.
Alors il y a quelqu'un dans l'esprit français que vous n'avez pas l'air d'aimer, je vous ai entendu dans une émission dire que Laurent Ruquier a remplacé la peine de mort en France. Très gentil pour Laurent Ruquier, non?
Ah, j'ai pas dit que je ne l'aimais pas. Peut-être que moi aussi, j'aime assister à des exécutions capitales.
D'accord. Vous pensez que Laurent Ruquier, c'est une forme de bourreau?
Ah, je crois que son émission est une forme d'exécution capitale. Et je donne d'ailleurs, je fais certaines suggestions dans mon dictionnaire sur des appels qu'il pourrait faire au public, n'est-ce pas, ce soir, sans garantie, S-A-N-G, garantie.
Ah oui.
Oui.
Sans garantie.
D'accord. Oui.
Et vous écrivez régulièrement dans le journal français La Croix.
Oui.
Pourquoi?
On m'a invité à le faire il y a de cela 3 ans. J'avais fait des petites choses pendant l'été, pendant plusieurs étés pour La Croix. On m'a invité à tenir une chronique, celle du lundi. Et j'ai accepté avec beaucoup d'angoisse, sans hésitation, mais avec beaucoup d'angoisse. Et voilà 3 ans que ça dure et j'en retire énormément de plaisir.
Alors dans les peut-être les particularités de Metin Arditi, il faut savoir que vous êtes évidemment suisse, mais vous êtes aussi un juif séfarade, originaire de Turquie, vous avez écrit là-dessus, et vous soutenez la cause palestinienne.
Je soutiens ce que je crois être la justice, c'est-à-dire le respect de tout le monde, de tout être humain. Je ne peux pas soutenir une politique méprisante, effectivement.
Et du coup, vous êtes dans cette posture-là. Et vous croyez à l'Europe? Parce qu'il paraît que les Suisses, l'Europe, ils trouvent que c'est vraiment ridicule.
Ah, ils ont des... En Suisse, il y a des sentiments très mélangés. Vous savez qu'il a fallu voter à 3 reprises pour que la Suisse accepte de rentrer à l'ONU.
Oui.
Ce qui est quand même moins engageant que l'Europe. Donc là, on en a encore pour un bout de temps.
Et moi, j'aime bien ce que vous dites. Vous voyez, Caroline Fauchon, c'est intéressant ce que dit Metin Arditi quand il dit que finalement, ce que veulent les Français, c'est plaire. Et il a une formule qui est pas mal. Il dit la société française est une société d'applaudissements. On s'applaudit les uns les autres. On veut être beau finalement, nous les Français. Ou belles, nous les Françaises. On veut être belles. Vous êtes d'accord?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que il y a effectivement une sorte de profondeur de l'apparence en France. On a l'impression, oui, effectivement que notre...
C'est une belle expression, oui, là, une profondeur de l'apparence.
Voilà, elle tient de résumé. Voilà, oui. Ça aurait pu s'appeler comme ça, votre livre, La profondeur de l'apparence. Oui. C'était une belle idée. Il y a aussi une dernière chose qui est très drôle dans votre livre. Il y a une particularité française, sachez-le, Caroline, c'est la rentrée littéraire. Oui. Chez les Français, il y a une espèce de phénomène en septembre, là, de folie furieuse, folie collective, selon vous, qui s'appelle la rentrée littéraire.
C'est tout à fait spécifique à la France, ça n'existe à ma connaissance dans aucun autre pays. Cette focalisation sur une période de l'année, alors que les livres pour la plupart sont déjà imprimés en mai et juin, et ils restent dans des stockages.
Ah oui, ben c'est vrai, les livres sont imprimés 6 mois avant.
À un moment où les Français sont à la plage et auraient tout le temps de lire. Mais ça, c'est une spécificité française.
Bah écoutez, elle est intéressante.
Mais oui.
Tu veux que je te raconte un souvenir?
Un souvenir, oh oui.
Si vous saviez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
Alors nous atteignons bien évidemment le point culminant de l'émission, puisque je vous rappelle que ça s'appelle Estivalitude, ça touche à sa fin bien sûr, et alors maintenant c'est la question brutale, hein. Quel est votre plus incroyable souvenir de vacances? Alors Caroline, quel a été votre plus incroyable souvenir? Ça se passe à Tahiti, c'est ça?
Oui, c'était, je me souviens, j'avais 18 ans, et ma grand-mère, qui était très féministe justement, puisqu'elle a divorcé... très jeune, en 41, elle était à peine mariée hein, et elle s'est construite toute seule, m'a dit « Moi, je t'offrirai pas une bague, hein, je vais t'offrir ce voyage-là. » Et j'allais rejoindre un jeune homme que je connaissais à peine. Donc j'étais à des milliers de kilomètres de chez moi, j'avais peu pris l'avion dans ma vie. Et voilà, et ça a été une découverte, en fait, de sensations, des tropiques, et puis surtout de... Effectivement, une sorte d'idéal géographique.
Vous avez découvert Tahiti et l'amour en même temps ou c'était pas au même moment?
Bah, c'était à peu près. Enfin, c'était quand même une grande, un grand été puisque quand même je suis allée rejoindre un jeune homme que je connaissais à peine. Donc oui, j'ai un petit peu tout découvert, on pourrait dire. Et c'était un été qui m'a marquée. Par les sensations aussi, des sensations que je n'avais jamais connues, des sensations aussi concernant justement la chaleur, l'humidité, effectivement.
Metin Arditi, vous, c'est quand vous aviez 15 ans.
Oui.
Que s'est-il passé?
C'était un été de séparation,
oui.
Très douloureux. Un été au cours duquel j'ai commencé à fumer, à boire du whisky, à sortir tous les soirs, à m'épuiser.
À 15 ans.
À 15 ans.
Oui.
À m'épuiser et à faire le malheur de ma mère qui me voyait et qui me disait tout le temps « Mais enfin, tu ne vas rien laisser pour quand tu auras 25 ans. » Et ça a duré un mois à la montagne, c'était en Suisse, à Cran-sur-Sierre. Et après un mois, je me suis effondré physiquement. Et ensuite, j'ai passé un mois à l'hôpital de Sierre.
Ah oui?
Oui, c'était du sérieux, du lourd, comme on dit.
Ah non, mais ça veut dire que c'est un été de cauchemar que vous me racontez là.
C'était très dur.
Oui. Tout ça pour une rupture amoureuse, c'est ça, d'adolescence, en fait.
Oui.
Vous êtes un homme très entier, Metin Arditi.
On peut le dire.
On peut le dire, oui, c'est impressionnant. Eh bien, merci beaucoup Caroline Fauchon et Metin Arditi. Vous avez tous deux fait preuve d'estivalitude. Alors, Metin Arditi, votre dictionnaire amoureux de l'esprit français est donc paru chez Plon et on peut vous lire régulièrement, donc vous nous l'avez dit, dans les colonnes de La Croix. Caroline Fauchon, votre premier roman, Sans eux, est édité par Actes Sud. Vous pouvez bien sûr réécouter, podcaster cette émission sur le site de France Inter. Et c'est comme de bien entendu Juliette Medevielle qui réalise Estivalitude. Je remercie la France et je remercie surtout Saad Merzak, Claire Tesser, Pierre Goulencourt et Astrid Landon pour leur précieux concours. À la technique aujourd'hui, une autre Juliette, Juliette Delperrou. Notre boutique éphémère ouvre bien sûr demain à 9h sur France Inter. Donc messieurs, dames, à demain. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah non, écoutez, Laurent,
jours,
non mais ça suffit quoi.
Comme tous les jours de la semaine.
Bonjour Laurent
Christophe,
Delmas,
bonjour. Je suis assis à côté de vous, ça me touche énormément.
Vous
m'avez piqué mon casque par contre, j'aime pas ça, je suis sans casque, sans oreille pour vous parler.
Bah, oui,
vous m'entendez quand même, ça va?
Moi je vous entends, non,
le micro n'est pas du tout.
N'ouvrez pas son micro.
Allez,
alors, bon cher Laurent.
Faites venir la sécurité. Ce matin, je reçois Nicolas Saada, qui est à la fois un cinéaste, un cinéphile et un journaliste.
On va le recevoir, nous aussi, dans un mois.
Ah, vous me piquez mes invités maintenant, c'est nouveau.
Bon, enfin tant pis.
Donc avec lui, on écoutera. Tenez-vous bien, du Marvin Gaye, du Serge Gainsbourg, de l'air, du Bobby Lapointe, des Beatles, Prince, Gérard Manset. Ça veut dire vraiment beaucoup de musique, beaucoup de films qui vont avec. Bref, c'est la programmation d'un vrai cinéphile mélomane.
Voilà. Bah écoutez, ça me va très bien.
Ça vous va très bien, je vous admire
terriblement. Je vais finir par vous écouter si ça continue.
Mais enfin, s'il vous plaît, quand même, tous les matins.
Bah, j'espère, oui. Merci
beaucoup.
À demain,
Christophe.
À demain.
À demain.